Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama. Okapi.
Messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la participation des enfants et des jeunes congolais à la création d'un monde meilleur. C'est à l'occasion de la journée, ce lundi 20 novembre, le monde célèbre le 34e anniversaire de la signature de la Convention des droits de l'enfant. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons dans ces studios Roberto Loyard, qui est enfant reporter. Roberto, bonjour.
Bonjour.
Nous allons également recevoir Cornélie Kabeya, qui est en route, et nous avons Madame Déborah Boto, encadreur. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Eh bien, et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler, aborder un sujet relatif à la campagne électorale. Est-il permis de battre campagne dans les écoles et universités? On en parle à partir de 11h, heure de Kinshasa, avec Serge Bondedi, qui est le secrétaire général de l'ASBEL Imaye Young Men Action for Education. Voilà, ainsi présenté le menu d'Okapi Service de ce jour. Pierre Deassino à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Pour participer à ce programme, eh bien, composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiokapi.net et postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service.
Radio Okapi à la Maison de l'Entrepreneuriat de Kinshasa avec Okapi Service. Rendez-vous ce mercredi 6 décembre des 11h à 13h pour une émission spéciale avec 1000 entrepreneurs, parmi lesquels les jeunes, les femmes, les responsables d'incubateurs des start-up, les PME ainsi que les porteurs des projets innovants. Au menu, quelles sont les stratégies des créations des millionnaires et milliardaires congolais? Radio Okapi avec les entrepreneurs. C'est pour ce mercredi 6 décembre à la Maison de l'Entrepreneuriat, première rue Limetefuna. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service pour des moments d'échange inoubliables. L'entrée est gratuite. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Ce lundi 20 novembre 2023 marque le 34e anniversaire de la signature de la Convention des droits de l'enfant. En RDC, des millions d'enfants se débrouillent au quotidien pour survivre, pour grandir dans des conditions de vie décentes ou encore lutter pour avoir les droits d'aller à l'école et être en bonne santé. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre, se développer, ainsi que le respect des opinions de l'enfant sont les principes fondamentaux de la Convention des droits de l'enfant. Alors comment faire participer les enfants congolais et les jeunes à la création d'un monde meilleur? C'est les sujets que nous abordons aujourd'hui dans cette émission avec les enfants reporters. Nous avons Roberto Loya et Cornélie Kabeya va également nous rejoindre tout à l'heure et Déborah Boto, encadreur, est déjà avec nous dans ces studios. Eh bien, on va commencer avec vous, Roberto Loya. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment tu vas?
Je vais très bien, merci, et vous?
Oui, ça va, ça va. Alors, cette journée du 20 novembre, qu'est-ce que ça t'inspire?
Cette journée m'inspire la célébration des droits de l'enfant. Ça parle de l'enfant et nous mettons l'enfant en valeur. Nous cherchons à mettre avec l'UNICEF, nos encadreurs, enfants reporters et enfants du comité que je suis, de promouvoir, de mettre en lumière les droits de l'enfant pour ceux qui ne sont pas encore respectés.
Et quels sont ces droits? Pouvez-vous nous citer quelques droits de l'enfant?
Entre autres, je peux citer les droits à la protection, les droits à la vie, les droits à la santé, les droits à l'éducation.
Voilà. Et dans notre pays, vous avez une idée, est-ce que ces droits sont respectés ou pas?
Ils sont respectés, mais pas en entièreté. Comme le droit à la protection, il est respecté dans un endroit, mais pas partout. Comme à l'Est, il y a des enfants qui ne sont pas bien protégés, il y a la guerre, d'autres meurent, d'autres se déplacent, ils n'ont pas de parents et tout ça, ils n'étudient pas. Et c'est là, ça va à l'encontre du droit à l'éducation.
Là, c'est par rapport à la protection. Et maintenant, par rapport à l'éducation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Avec la gratuité de l'enseignement, beaucoup d'enfants sont allés à l'école, mais c'est là...
C'est une bonne chose.
Une très bonne chose, d'ailleurs. Parce que je sais qu'ils n'avaient pas accès aux cours, maintenant accès aux cours, mais dans certaines zones où il n'y a pas d'autres enfants qui vont à l'école. Mais sinon, c'est une bonne chose, les droits à l'éducation.
Bien, la gratuité de l'enseignement. Madame Deborah, un mot à dire là-dessus?
Oui, j'ai un mot à dire par rapport à ça. Je rejoins d'ailleurs ce que dit Roberto. La gratuité de l'enseignement est une bonne chose. Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que il y a beaucoup d'enfants jadis qui ne partaient pas à l'école suite au manque de frais parce que les parents n'avaient de quoi les scolariser. Mais avec cette gratuité, en tout cas, c'est une bonne chose parce que bien que ce n'est pas la majorité des enfants qui vont à l'école maintenant, mais au moins une minorité assez considérable vont à l'école du coup. C'est vraiment une bonne chose en tout cas.
Ouais, c'est une très bonne chose. Donc on peut dire que du côté de l'éducation, il y a quand même des progrès qui ont été réalisés.
Il y a un progrès en tout cas. Oui.
Mais il y en a encore beaucoup qui ne vont pas à l'école.
Oui, il y en a encore.
Et pourquoi?
Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans cette situation. Déjà, du côté de l'éducation, il y a quand même quelque chose de bien, vu que il y a possibilité que les enfants partent à l'école, vu la gratuité. Mais il y a encore beaucoup de choses, peut-être au niveau de la famille et au niveau de l'environnement de ces enfants-là qui ne permettent pas ce qu'ils vont à l'école. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, comme par exemple déjà la protection. Si on va dans il y a d'autres coins du pays où les enfants n'y sont pas très bien protégés, et c'est à cause de ça qu'ils ne peuvent pas peut-être aller à l'école. Parce qu'il y a certains enfants qui sont obligés de traverser des rivières pour aller à l'école. Il y a certains enfants qui sont obligés de traverser des forêts pour aller à l'école. Et vu l'insécurité, ils ne sont pas vraiment en mesure d'y aller. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu sur l'éducation ou la scolarité totale des enfants.
Soit un enfant qui n'a pas mangé, qui a faim, comment peut-il aller à l'école?
Malheureusement, il ne peut pas. Voilà.
Bien, donc nous parlons aujourd'hui de la Convention des droits de l'enfant, le 34e, c'est le 34e anniversaire ce lundi 20 novembre. Alors, le thème c'est comment participer les enfants congolais, les jeunes à la création d'un monde meilleur. Roberto Loya, dites-nous comment on peut arriver à obtenir cette participation des enfants et des jeunes à la création de ce monde meilleur.
On peut aider l'enfant à participer à la création d'un monde meilleur en lui montrant d'abord ses droits. Quand un enfant connaît ses droits, il sait de quoi il est capable, ce qu'il peut faire. Il peut aider la jeunesse parce que ce monde d'aujourd'hui appartient à la jeunesse de demain. La jeunesse d'aujourd'hui va prendre le relève des parents et avec la connaissance que les enfants peuvent avoir actuellement, ça peut leur aider à améliorer le monde pour connaître en quoi ils peuvent être face dans le futur.
Un exemple précis?
Parce que il y a un exemple que je peux donner. Nous avons participé à une formation sur les changements climatiques. On nous a montré les enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire pour que limiter les dégâts du changement climatique. Et cela nous a permis à ce qu'on puisse savoir à quoi on pourra faire face dans le futur. Comment s'est préparé?
Comment s'est préparé? Dites-nous, qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport au changement climatique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à cela?
On peut limiter les dégâts en des solutions écologiques. Comme en Europe, nous voyons, il y a les créations de voitures hybrides qui marchent à l'énergie. Et on peut aussi limiter les dégâts en ne pas polluant l'environnement.
L'environnement.
Voilà. En ne pas jeter les déchets par terre, ramasser des déchets, balayer les avenues. C'est que les enfants sont capables de faire, quoi.
Voilà. Les enfants sont capables de faire cela. Balayer, mais est-ce qu'ils ont, les enfants doivent plutôt aller à l'école que d'aller balayer les rues. Je vois pas les enfants aller faire ce travail-là.
Ça s'est fait dans le week-end aussi, les dimanches par exemple, le matin, avant ou après le culte ou la messe. Un enfant peut prendre par exemple, non, je vois les déchets devant le portail, je ramasse, je mets à la poubelle, des gestes simples capables qu'un enfant peut faire.
Est-ce que toi-même, Roberto, tu as déjà eu à faire un geste pareil, à poser un geste pareil?
Oui, comme chez nous à l'école, on a une pause de 12h à 12h55. Chacun doit ramasser des déchets, mettre dans la poubelle pour ne pas polluer la cour de l'école. Donc, nous sommes déjà habitués à faire ça à la maison aussi. Je balaye la maison devant le portail pour ne pas salir l'avenue.
Là, c'est quand vous êtes puni ou bien
non,
c'est
tout élève qui doit faire ça. C'est un exercice habituel qu'on fait à l'école.
Bien, c'est un exercice que vous faites à l'école. Nous recevons Cornélie Kabeya qui vient d'arriver. Bonjour Cornélie.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous parlons aujourd'hui c'est le 20 novembre, on célèbre les droits de l'enfant. Qu'est-ce que tout cela vous inspire?
Au fait, la journée du 20 novembre, nous célébrons le droit de l'enfant déjà. Et cela m'inspire beaucoup parce que c'est une journée qui nous est totalement graduée. Cette journée est vraiment célébrée pour nous les enfants.
Et quels sont les droits de l'enfant?
Les droits des enfants, il y a beaucoup de droits de l'enfant où je peux citer les droits à l'éducation, à la participation et les droits à la protection. Il y en a vraiment plusieurs.
Il y en a plusieurs. Oui. Alors, vous-même, parlez-nous le thème aujourd'hui, c'est la participation. Oui. Comment obtenir la participation des enfants et des jeunes à la création d'un monde meilleur? Comment on peut y arriver?
La création d'un monde meilleur avec le thème de la participation. La participation qui veut déjà dire que l'enfant doit mettre l'opinion à ce qui lui concerne. Alors je pense vraiment que si nous voulons un monde meilleur avec le thème de la participation, il serait primordial de mettre la voix de l'enfant dans tout ce qui le concerne.
Un exemple ou des exemples?
Des exemples, je peux dire, dans des établissements scolaires. Souvent, les élections se passent par voie d'autorité. Souvent, c'est une imposition. Les enfants ne votent pas, mais c'est une imposition qu'on les fait. C'est une imposition sur la présidente ou les présidents. Souvent, on impose et les enfants n'ont pas le droit d'aller réclamer ou de faire des plaidoyers.
Vous voulez dire lorsqu'il y a élection, par exemple, du président?
Oui.
À l'école?
Même de la cheftaine.
Oui. Même de la cheftaine, oui. De la classe?
Oui, la classe, souvent, n'a rien à dire. Juste quand les DD débarquent, ils disent que celle-ci sera la chef et puis tout le monde accepte. Donc, on n'a pas un mot à dire. C'est obligatoire.
Normalement, comment ça devait se passer?
Normalement, ça devait se passer par les élections. Les enfants eux-mêmes devaient choisir celle qui devait les défendre ou celle qui devait être la chef-tête des classes. Mais souvent, ça se passe par voie d'autorité. Les directeurs entrent juste comme ça et puis disent non, celle-ci doit être la chef-tête et ça se passe comme ça.
Roberto, quel est ton avis là-dessus?
Oui, elle a raison, mais ce qui est sûr, ça ne se fait pas partout, mais dans des endroits, ça se fait où on impose des choses aux enfants, aux élèves. À la maison aussi, un parent peut dire que non, tu feras la section scientifique parce que moi, je suis médecin, je veux que tu sois médecin. L'enfant n'a rien à dire sur ça.
C'est pour ça.
Voilà. C'est pour cela que nous voulons que l'enfant participe à ce qui le concerne. Si papa dit que tu feras la scientifique, l'enfant dit non, je ferai la littéraire et que l'enfant, puis les parents puissent écouter ce que veut l'enfant.
Dis-nous, par exemple, pour ton propre cas, comment ça s'est passé avec tes parents?
Pour mon cas, bon, papa m'avait demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je veux être médecin comme maman, je ferai l'ophtalmologie comme ma mère, je préfère faire la scientifique, on m'avait écouté, j'ai fait la scientifique.
Papa n'a pas tenté de t'imposer autre chose?
Non, non.
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 Voilà. Et comment c'était avec toi, Cornélie?
Moi, j'avais dit à papa que bientôt je serai dans mes études humanitaires, je devrais me trouver une option. Alors, lui, de sa part, il a essayé de me citer les options qu'il connaissait et de me dire les avantages et les désavantages. Après, c'était à moi de choisir et j'ai choisi la commerciale.
Pourquoi?
Parce que j'aimais vraiment l'option et je voulais vraiment être une femme d'affaires.
Ah, plus tard, tu veux devenir femme d'affaires. Et Roberto, lui, c'est un médecin ophtalmologue.
Oui.
Voilà, donc, il est important de faire participer aux enfants à la prise des décisions. Madame Déborah, qu'est-ce que vous en pensez?
Je joins, en fait, l'avis de Roberto ainsi que Cornélie. C'est vraiment important d'impliquer l'enfant dans la prise des décisions, surtout concernant ce dernier. Parce que comme ça, au moins, on saura... on saura que ce que veut l'enfant lui permettra d'être à l'aise. Parce que comme l'a dit Roberto, ce n'est pas vraiment beau d'imposer à l'enfant en fait ce qu'il ne veut pas. Roberto a choisi d'être ophtalmologue comme sa mère parce que ça lui plaisait, c'est ce qu'il voulait faire. Et si on peut imaginer si Roberto ne voulait pas de cela et qu'on lui a imposé, il allait se retrouver dans une faculté plus tard où il n'a peut-être aucune maîtrise. Parce que déjà, moi je me dis, la maîtrise vient quand on a la volonté et quand on aime ce qu'on fait.
Ouais.
Imaginez qu'on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on nous demande d'être dedans. Déjà, ça ne va pas s'accorder. Il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas un bon résultat. Et c'est le cas avec les enfants. Si nous, les adultes, on n'accepte pas ce qu'on nous impose quelque chose, qu'on n'arrive pas à s'adapter à ça, qu'on n'aime pas quelque chose, on ne le fait pas. Et il y a combien plus forte raison à imposer à un enfant ce qu'il ne veut pas.
Mais certains parents disent que les enfants n'ont pas l'expérience. Nous, on a déjà de l'expérience dans la vie et on peut bien les orienter.
Je n'en dis qu'on vient pas, mais ce n'est pas dans toute chose. Certes, les parents savent ce qui est bon pour leurs enfants, mais il y a d'autres situations où c'est vraiment bon d'entendre ce que l'enfant dit. Parce qu'il y a certaines réalités que l'enfant seul est capable d'en parler. Il y a certaines choses qu'il vit que seul lui a la possibilité de trouver une solution en parlant. Certes, le parent pourra dire que non, à l'allure où je vois mon fils aller, c'est mieux qu'il parte faire l'armée par exemple. Et l'enfant lui-même se dit il n'est pas capable de faire ça. Peut-être parce qu'il a la peur, il a une phobie des armes à feu, il a une phobie des coups de feu. Et après ça, il n'y aura pas un bon résultat. Donc c'est vraiment important d'avoir l'avis de l'enfant. C'est très important.
C'est important d'avoir l'avis de l'enfant sur tout ce qui les concerne. Mesdames et messieurs, vous voulez participer à cette émission? Le standard est ouvert. Composez le 099-706-99-41. 099-706-99-41.
Au Capi.
Comment faire participer les enfants et les jeunes à la création d'un monde meilleur? C'est le thème de la célébration de la journée de l'enfant, du droit de l'enfant. Aujourd'hui, nous recevons Roberto Loya et Cornélie Cabilla, les enfants reporters de l'UNICEF. Avec eux, nous échangeons autour de ces sujets. Vous avez des questions, des préoccupations, eh bien, le standard est ouvert. Composez le 099-706-99-41. Alors dites-nous, Cornélie, dans quel domaine, un autre domaine dans lequel il est important de faire participer les enfants?
Au fait, moi je pense que le domaine encore qui pourrait faire participer l'enfant, c'est dans le domaine des décisions qui concernent au niveau familial. Souvent, la décision de l'enfant n'est pas vraiment considérée. Souvent, la décision de l'enfant est rejetée. Un parent peut imposer sa décision à sa fille ou à son fils, ce qui n'est pas vraiment bien. Et souvent, cette imposition est même sur ce qu'il doit faire dans sa vie de tous les jours. Donc, il s'impose partout et il dit que souvent qu'il a de l'expérience et l'enfant ne sait rien. Et que son enfant n'a rien à dire sur cela et que lui ou elle aussi, elle a déjà été jeune, donc elle sait tout ce que l'enfant rencontre. Souvent, ils ont tendance à dire que non, ne me dis rien parce que je sais tout ce que toi tu as vécu, c'est ce que moi je vécu, alors je connais le mieux la vie, donc tu n'as rien à dire. C'est surtout dans tout ça.
Un exemple précis, comme tu as parlé tout à l'heure des études, le choix des filières d'études, un autre domaine où les parents s'imposent souvent.
Moi, je dirais, c'est surtout dans le continent africain où les parents s'imposent même dans le choix du mari que sa fille doit épouser.
Ah.
Et même dans le choix que le garçon doit épouser la fille que le parent veut. Parce que je l'ai vécu dans notre parcelle. Il y a le bailleur de la parcelle. Il y a son garçon qui voulait épouser une fille qui était juste de l'avenue. Et son père l'a dit non, la fille est pauvre, il ne peut pas épouser cette fille. Lui veut plutôt que son garçon épouse une fille que lui...
Dont les parents ont beaucoup d'argent.
Oui, les parents ont quand même de l'argent, ils ont quand même de moyens. Il a dit à son fils que non, moi je voulais pas que tu épouses cette fille. Je vais te choisir une fille qui t'ira mieux, pas elle.
Et comment ça s'est terminé? Les garçons ont fini par accepter l'avis de son père ou ils n'étaient pas d'accord?
Le garçon n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il a dit qu'il aime la fille, mais les papas aussi s'entêtent toujours à dire ça.
Et maintenant, et la fin, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est en cours d'abord, parce qu'il n'y a pas encore de... On n'a pas encore tranché l'affaire. Le garçon sentait toujours avoir la fille et le père...
Mais le papa a dit, niette, pas question.
Oui, pas question.
Roberto, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, comme elle l'a dit, les parents s'imposent souvent dans les décisions, comme dans les mariages. Le papa peut dire que non, avec telle famille, on s'entend bien, tu vas épouser sa fille. Si tu ne veux pas, tu ne te maries pas. Il y a des cas aussi que la fille a trouvé un fiancé. Elle apporte le fiancé à la maison, elle dit que non, papa, c'est mon fiancé. La première question des parents, c'est il fait quel travail. Et quand papa voit que c'est un travail qui ne correspond pas à ce qu'il veut, il dit que tu ne peux pas épouser ce garçon parce qu'il n'est pas capable de te donner ce que tu veux. Pourtant, la fille et le garçon s'aiment. Mais ça dépend aussi des circonstances. Parfois, les parents peuvent avoir raison, parfois la fille peut avoir raison. Parce qu'il est dans, au fur et à mesure que les gens évoluent, les gens changent. Les garçons peuvent avoir un travail qui peut aider à subvenir aux besoins de la fille. Et c'est pour cela qu'il y a d'autres cas où les parents sont imposent souvent les enfants et que les enfants n'ont rien à dire. Et comme Cornélie l'a dit, les parents disent que non, je connais la vie, j'ai été jeune comme toi. Pourtant, nous n'avons pas les mêmes circonstances de vie. Leur époque et notre époque, ce sont deux époques différentes. Mais les parents disent toujours, ils s'entêtent à dire que nous avons vécu ce que vous êtes en train de vivre. Mmh. Et nous savons mieux que vous.
Madame Déborah.
Oui, je vous dis, en tout cas, ce que les enfants viennent de dire, c'est une réalité que nous rencontrons souvent. Mmh. Et je suis contre ça, je suis contre ça. Le bonheur de... Bon, bien, là on parle plus du jeune, c'est pas, c'est, ouais, ça ne concerne pas les enfants.
Les enfants,
parce
oui.
que le mariage, c'est pas pour les enfants déjà. Je me dis que je suis contre ça. Le bonheur de la personne ne dépend que d'elle-même. Et ce n'est pas acceptable qu'on nous impose quelque chose qu'on ne veut pas. En tout cas, moi, je me tiens encore sur ça. Je l'ai dit au début, ce n'est pas bien d'imposer à quelqu'un ce qu'il ne veut pas. Mmh. Et encore dans le domaine du mariage.
Comme l'exemple de Cornélie, le papa a dit non, la fille là est issue d'une famille pauvre, alors je ne veux pas que tu ailles épouser.
Ah oui, comme Cornélie l'a dit, c'est vraiment déplorable. Parce que le parent envisage à sa fille un mari qui a de l'argent. Et peut-être ce mari-là ne convient pas à la vie, parce qu'elle ne l'aime pas. Peut-être que les comportements du garçon ne mettront pas sa fille à l'aise. Ça, le parent n'a pas vu ça. C'est l'argent qu'il a vu. Et en fait, c'est vraiment important de parler avec nos enfants. C'est vraiment important de parler avec eux sur leur choix. Qui veux-tu dans la vie? Et ainsi, le parent peut ajouter son truc à lui. Il peut ajouter que non, dans les critères que tu as, dans les critères que tu veux, en fait, tu peux ajouter. Au moins, pas vraiment l'argent ou des biens et tout, mais faudrait choisir une personne qui est capable de prendre soin de toi. Moi, je me dis que ça doit se passer comme ça normalement, les échanges entre les parents et leurs enfants. Mmh. Parce que souvent, c'est seulement, oh non, papa, je veux me marier. Ok, tu veux te marier avec qui? Non, avec une telle personne. Est-ce qu'il a l'argent, comme Roberto l'a dit?
Est-ce qu'il travaille?
Oui. Le parent ne voit pas comment il se comporte. Il est issu de quelle famille? Il étudie où, par exemple? Ce sont là les questions que les parents devaient aussi poser. C'est une manière d'aider sa fille à mieux s'engager. Au lieu de directement poser la question fétiche qui est celle de savoir si le garçon travaille ou non. Mmh. Faudrait avoir des questions comme il est issu de quelle famille? Il habite où, par exemple? Je ne sais pas. Comment tu le trouves? Il se comporte comment avec toi? Est-ce qu'il te met à l'aise? Tu es heureuse avec lui? Ce sont là vraiment les questions qui devront être posées dans ces genres d'échanges. Mmh. Ainsi, la fille aura elle-même, elle se dira, après cette question, elle va commencer à répondre. Elle se dira, papa a peut-être raison, le garçon,
à
réfléchir sur ça. Certes, il est gentil, il est issu d'une bonne famille, mais il est un peu trop possessif. Ce qu'il fait là ne me plaît pas, il m'a déjà giflé. Et là, la fille elle-même, elle trouvera une solution, elle trouvera une réponse à donner à son père. Et puis, du coup, elle pourra peut-être être contre le mariage et dire, non, papa, j'ai l'impression que ce garçon, il est un peu trop possessif, mmh. Il est impoli, bien qu'il est issu d'une bonne famille, il a de l'argent, mais il est impoli, il est peut-être arrogant, il est orgueilleux, et ça ne me plaît pas. Et à partir de ça, la fille pourra se dire, non, mon père a raison. Peut-être qu'il a voulu me dire de m'éloigner de ces garçons, mais d'une manière un peu plus mature, mmh. un peu plus intellectuelle, au lieu de dire juste, non, tu ne vas pas l'épouser. Moi, je pense que ça doit se passer comme ça. Parce que quand les parents se disent, non, tu n'épouses pas cet homme. Déjà, moi, je me dis, avec la jeunesse, l'interdit attire. Là, déjà, on le sait, hein. Mmh. Avec les enfants et la jeunesse, en fait, nous autres, les jeunes, les gens, quand on nous dit que non, faut pas faire ça, on s'est posé des questions. Mais pourquoi? On nous a pas dit pourquoi on ne peut pas faire ça. Et cette curiosité s'éveille en nous. On veut à tout prix savoir pourquoi on nous interdit de faire ça. Et en se lançant dans ça, et après, ça va barder. Peut-être qu'après, il y aura des mauvaises répercussions. Donc, c'est un peu ça.
Donc, pour faire participer les enfants à la prise des décisions, il faut qu'il y ait dialogue.
Il y ait dialogue.
À la maison.
Effectivement.
Est-ce que, Roberto, chez vous, à la maison, il y a dialogue? Vous dialoguez souvent avec les parents?
Oui, ça arrive.
Ça arrive ou c'est tout le temps?
C'est fréquent. Parce que quand papa propose une chose, il te demande toujours si tu es d'accord. Maman aussi, quand elle fait ça, elle demande si tu es d'accord et puis tu peux donner ton avis.
Et comme elle dit?
Ben, moi aussi, je pense qu'il y a dialogue. Mais comme l'a dit Déborah, je pense que l'interdit attire. Et ça attire vraiment, surtout chez les enfants. Quand il interdit quelque chose, elle a toujours tendance à faire cette chose. Alors, avec le parent à la maison, ils essayent, quand il nous a interdit quelque chose, d'expliquer la raison pour laquelle il nous a interdit cette chose. Et quand il nous explique cela, c'est plus simple de l'éviter.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Daniel qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Daniel.
Ah, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi qui sont en train de nous suivre à ce notre moment. Tout premièrement, je dédie d'abord cette journée à mon garçon Roger Kinsen de Borauzima. Je voulais conseiller aux parents aussi de laisser les enfants faire les choix. Nous, nous sommes censés de les accompagner. Ce n'est pas de l'obliger qui doit marier celle-ci, tu dois marier celle-là. Non, tu dois faire ceci, tu dois choisir cette option et tu vas faire ceci. Non, nous devons juste les guider, les conduire dans leur choix. C'est ce que d'abord, tout premièrement, je voulais conseiller aux parents. Deuxième chose pour l'éducation des enfants. Vous voyez, l'éducation là, à l'époque de Mobutu qu'on avait, le papa, il est toujours méchant, méchant, méchant. Même si les enfants s'approchaient auprès de lui, il est toujours méchant, mais sans l'éducation qu'on a vécu même chez nous. Maintenant, cette éducation-là ne doit pas être encore importante aujourd'hui. Nous devons changer la manière d'éducation, nous devons rapprocher nos enfants, nous devons créer la cohésion, l'unité avec nos enfants. Nous devons parler à nos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent. Là-bas, nous n'aurons plus encore des bandits, nous n'aurons plus encore des brigands dans nos familles. C'est tout ça que je voulais dire, monsieur le journaliste.
Merci Daniel de Lubumbashi. Michel Otto, vous êtes président national de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire, RDC. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à tous ceux qui nous suivent via la radio onusienne.
Bien.
Le 20 novembre, aujourd'hui, c'est la journée, comme vous l'avez dit, avec les collègues invités et les plutôt de l'enfant. Et j'appuie les avis des collègues sur le plateau qui ont reconnu des avancées significatives en matière des droits de l'enfant ici au pays. Mais en même temps, je voudrais lancer un cri d'alarme pour dire qu'il y a une catégorie d'enfants dont les droits ne sont toujours pas pris en compte de façon correcte. Vous imaginez clairement que c'est les droits des enfants d'âge préscolaire. L'école maternelle, l'éducation préscolaire, jusqu'au moment où nous parlons, dans la Constitution de la République, nulle part les mots préscolaire, nulle part le mot école maternelle ne sont reprises. Alors que le préscolaire devait normalement faire partie de l'éducation de base et cela profiterait aux enfants avec la gratuité que le gouvernement a fait appliquer grâce à la Constitution. En même temps, je voudrais ici lancer un cri d'alarme pour dire que les collègues de Patron l'ont reconnu, au niveau des différents ministères qui gèrent l'éducation, cette journée liée aux droits de l'enfant n'est pas célébrée. Que se passe-t-il? C'est comme ça que nous, au niveau de l'OMEC-RDC, nous avons demandé à tout le monde d'être en bleu pour reconnaître les droits de l'enfant, pour que nous sommes défenseurs des droits de l'enfant. J'imagine que jeudi et ses invités sur les plateaux sont également en bleu. Bonjour à tout le monde.
Bon, bon, on n'est pas tous en bleu ici. Bon, il y a peut-être Cornélie qui est en bleu blanc, voilà. Ouais, il y a également Roberto qui a une écharpe bleue. Oui, c'est voilà, c'est déjà bien.
Très bien, parce que la couleur bleue, ça montre que nous sommes activistes, nous sommes acteurs, nous sommes défenseurs des droits de l'enfant, et c'est ça le symbole. Pose cette question, allez la poser à tous les différents ministères qui gèrent les droits de l'enfant. Affaires sociales, genre et famille, jeunesse, EPC. Est-ce qu'on en parle? Et pourquoi on en parle? Pourquoi n'en parle-t-il pas? Qu'est-ce qui se passe-t-il en réalité? Donc, on va crier ici à la radio Capi, droits de l'enfant, mais ceux qui sont censés assurer la protection, assurer l'éducation, assurer le suivi, assurer la promotion, c'est silence radio, hein. Je suis désolé.
Bien, merci Michel Otto. Je rappelle que vous êtes président national de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire en RDC. Bien, Madame Déborah, votre réaction, il a parlé d'une catégorie d'enfants, les enfants de l'école maternelle.
Ma réaction par rapport à son intervention, il a parlé de la catégorie de l'enfant, des enfants de la maternelle. Bon, moi j'ai plus retenu ce qu'il a dit que nous parlons du droit de l'enfant, nous parlons de l'enfant, mais on ne voit pas ça être mis en pratique. Bon, je me dis, par rapport à ça, déjà, la RDC est vraiment est vaste. La RDC est vaste, il y a énormément d'enfants. Il y a énormément d'enfants. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas une réaction par rapport à ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas quelque chose en préparation ou que on ne fait rien. Ce n'est pas le cas. Déjà, moi, je me dis, dans tous des domaines qu'UNICEF touche, il y a quand même quelque chose qui se fait. Au niveau de l'éducation, il y a quelque chose qui s'est fait et qui se fera. Au niveau de la protection, je l'ai entendu parler de la protection. Il a dit que ce n'est pas tous les enfants qui sont protégés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont non protégés. Mais quand même, il y en a qui sont protégés. Il y en a qui sont protégés. Bien que ce n'est pas, comment dirais-je, cette protection n'est pas encore totale. Mais au moins, il y a une majorité. Bon, pas vraiment majorité, mais il y a quand même des enfants qui sont protégés. Et c'est à la langue que tout ça se fera. C'est à la langue que cette totalité sera visible. Mais je le dis à notre confrère, si on peut l'appeler comme ça, qu'il n'ait pas vraiment à s'inquiéter. Nous faisons de notre mieux pour que ces enfants-là qu'ils trouvent non protégés soient protégés, que ces enfants-là qu'ils trouvent non scolarisés soient scolarisés, et ces enfants-là qu'ils trouvent peut-être abandonnés aient un toit et ainsi de suite.
Bien, merci. Nous parlons de la participation des enfants et jeunes à la création des mondes meilleurs. C'est à l'occasion de la journée des droits de l'enfant aujourd'hui, ce lundi 20 novembre. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez les 099 706 99 41. Au capé. Comment faire participer les enfants et les jeunes congolais à la création des mondes meilleurs? On va accueillir à présent Balex Mwanza qui nous appelle du Kasaï central. Balex, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les invités de la radio Okapi et bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème, Balex?
Merci beaucoup pour ce sujet du jour. Je remercie vraiment les invités aussi, les intervenants. Bon, je contredis un peu à celui qui a appelé depuis, mais je pense que c'est M. Daniel qui a appelé depuis la ville de Mbujima, si je ne m'abuse pas.
Daniel est à Lubumbashi.
Oui, merci beaucoup. Il a dit, il demande aux parents de donner seulement la liberté aux enfants pour que les enfants puissent faire leur choix. Alors, ce sont les parents là qui peuvent maintenant donner ou bien orienter les enfants. Si peut-être l'enfant décide maintenant de consommer du chanvre, par exemple l'alcool, par exemple n'importe quoi, est-ce que c'est impossible ou bien les parents peuvent laisser comme ça parce que les enfants ont droit à la liberté ou quoi? C'est-à-dire, je demande un peu aux invités, est-ce que c'est possible, si peut-être l'enfant veut consommer le chanvre, c'est possible maintenant de le laisser comme ça parce que les enfants ont droit? Je pense que c'est juste ma préoccupation depuis la province du Kassangra-Balex.
Merci, Balex. Roberto Loya, qu'est-ce que vous pouvez dire à Balex par rapport à sa question?
Par rapport à votre question, je pourrais dire que on n'a pas dit que l'enfant a droit à la liberté, à faire ce qu'il veut. Non. Il y a des droits spécifiques à l'enfant. Le droit à la participation, ça l'aide à donner son opinion. Et les parents, quant à eux, d'accompagner l'enfant à voir si c'est bon ou pas. Si c'est mauvais, comme il a dit, fumer du chanvre. Tout le monde sait que c'est mauvais. L'enfant n'a pas le droit de fumer du chanvre. Les parents diraient que non, ce n'est pas bien. Pourquoi? Il explique à l'enfant. L'enfant, en toute innocence, il ne sait pas les chanvres, c'est quoi. Il se dirait que non, les gens prennent ça, c'est que c'est bien. Donc, le parent est là pour l'orienter. Il explique que non, les chanvres, ce n'est pas bien. C'est pas bon pour la santé. Tu ne prendras pas ça. Et l'enfant comprendra que non, papa a raison. Et je ne peux pas faire ça, je fais ce que je suis censé faire. Mes droits, je n'ai pas le droit de fumer du chanvre parce que ce n'est pas mon droit. Moi, je donne mon avis. Les parents acceptent et ils m'aident, ils m'orientent à ce qui est mieux pour moi.
Cornélie.
Moi, je dirais que fumer du chanvre, c'est quelque chose de mal. Ça peut détruire la santé de l'enfant. Cela touche même à sa protection. Protéger l'enfant est un devoir qui incombe le parent. C'est les parents qui doivent protéger l'enfant. Et interdire sa fille ou son fils de fumer du chanvre, c'est toucher à la protection et faire en sorte que ces droits-là soient respectés. Et je tiens à préciser aux messieurs que nous ne parlons pas de la liberté, mais nous parlons de la participation. La participation veut dire que l'enfant doit donner une opinion en ce qui les concerne. Un enfant débarque et dit que je vais fumer du chanvre. Toi, en tant que parent, tu ne dois pas le crier dessus, mais d'expliquer ce que c'est mal peut faire à son corps ou à sa santé. Tu vas tout simplement l'expliquer, lui donner son opinion. C'est comme un dialogue, comme Déborah l'a dit. C'est par le dialogue que l'enfant va comprendre que ce qu'il va faire est mal.
C'est seulement par les dialogues qu'on peut arriver à résoudre ce problème. Madame Déborah.
Monsieur Balex Mwanza nous a parlé de la liberté. Comme Cornélie vient de le dire, ce n'est pas question de liberté, mais de participation. L'enfant donne son avis, mais le parent est capable de juger si cet avis est mauvais ou s'il est bon. Fumer du chanvre, comme Cornélie l'a dit, c'est quelque chose de mauvais. Tout le monde connaît, c'est une mauvaise chose. Et que... la protection de l'enfant, quand on parle de protection, comme Cornélie dit, ça encombre les parents. Les parents, dans la protection qu'ils doivent fournir à l'enfant, il y a aussi certaines interdits. Ce sont ces interdits-là qui sont, qui jouent le rôle de bouclier pour l'enfant. Ce sont ces interdits-là qui sont comme des remèdes à d'autres pathologies qui surviennent à l'enfant. Ce sont ces interdits-là qui protègent l'enfant. Mmh. Entre autres, la prise de la drogue, la prise de ces chanvres-là, comme
ça,
il a dit.
Aucun parent ne peut accepter
ça. Voilà, il n'y a aucun parent. Peu importe la liberté que l'enfant veut avoir, il n'y a aucun parent qui peut accepter que son enfant prenne du chanvre. Et on ne parle pas de liberté.
Des libertés, mais ici, c'est beaucoup plus la participation.
Voilà. L'enfant peut donner son avis, son opinion, et le parent a le libre cours d'accepter ou de refuser. S'il trouve que c'est mieux, c'est bon, mais si ce n'est pas le cas.
Par exemple, par rapport au choix des filières d'études, c'est toujours mieux de demander à l'enfant qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie.
Oui, oui.
Et l'enfant vous dira, voilà, je veux devenir pilote, médecin ou autre chose. Mais souvent, on dit que les parents africains sont des dictateurs.
Oui, mais c'est pas tous les parents qui sont comme ça. Il y a certains parents qui ont compris, en fait, que parler avec leurs enfants est favorable. Est favorable pour l'enfant et pour le bien-être de la famille. Il y a certains enfants, il y a certaines familles qui engendrent des enfants rebelles, qui engendrent des enfants peut-être délinquants, révoltés. Et je peux dire que certes, il y a des éducations que les enfants ramassent dans la rue, mais la première éducation, déjà quand on trouve ou on se rencontre avec un enfant mal éduqué, souvent on attaque la famille. On se dit que non, sa famille ne l'a pas bien éduqué. Pourquoi on s'attaque à la famille? Parce que c'est la famille qui est censée donner une image à l'enfant.
C'est la famille qui donne l'image de base à l'enfant, et c'est avec cette image que l'enfant ira affronter ce qui viendra dans la, à l'avenir. Si déjà l'enfant a son éducation reçue à la maison, on lui a dit que tu ne dois pas, par exemple, parler aux inconnus. Quand tu trouves des gens en train de se battre, tu t'éloignes. Si, il ne faut pas répondre impoliment aux adultes, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Quand l'enfant a cette éducation déjà depuis la maison, je suis sûre qu'en se rencontrant avec ce genre de situation, il ne va pas se soumettre à cela. Il va se tenir à son éducation reçue depuis la maison. Et il se dira non, à la maison on m'a dit, ça c'est pas ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et c'est ainsi. Je me dis que c'est la famille qui joue un rôle primordial. Mmh. Déjà, quand l'enfant a cette image, il ne va pas aller se lancer dans n'importe quoi. Et ça sera difficile pour que l'enfant vienne un jour dire à ses parents, « Non, papa, je vais fumer du chanvre. » Déjà, il voit que son père, il n'en prend pas. Sa mère non plus. Ouais. Dans sa famille, il n'y a personne qui en prend. Et peu importe ce qu'il a vu là-bas,
il a
se
vu
dira,
ça ailleurs. Mais...
il a vu ça ailleurs. Ouais. Il ne va pas faire ça. Pourquoi ? Parce que ses parents ont une autorité favorable sur lui. Mmh. On ne parle pas de dictature. On ne dit pas, parce qu'il y a certains enfants, comme certains parents, comme vous venez de le dire, on dit que l'Afrique contient des parents autoritaires, dictateurs. Mmh. Ce n'est pas le cas. Parler avec l'enfant, échanger avec l'enfant n'est pas synonyme de gueuler l'enfant ou de s'appuyer sur lui, voilà, en lui disant tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Non, 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 il faudrait collaborer avec l'enfant, parler, échanger avec l'enfant, dialoguer. Comme ça. Et...
par exemple, il y a des parents aujourd'hui qui peuvent poser la question aux enfants, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui, Roberto, on te pose aussi souvent la question comme ça à la maison.
Tous les jours.
Tous les jours.
Oui.
Et par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit à maman?
Vu qu'hier j'avais déjà parlé, je dis qu'il prépare ce qu'il veut aujourd'hui.
Ah, tu as laissé le choix à la maman. Et Cormélie, chez vous, comment ça se passe?
Oui, ça arrive parfois à papa de poser la question, qu'est-ce que vous voulez manger? Et souvent, on dit que non, on ne veut pas manger à la maison, on veut dîner dehors. Donc, ce sont des choses qui arrivent comme ça.
Ou pendant les vacances, on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire pendant les vacances,
oui,
etc.
Souvent, on nous pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et souvent, on préfère passer les vacances chez notre grand-mère.
Grand-mère. Ok, donc c'est vous-même, vous établissez votre programme, tout ça, des vacances, etc.
Oui, mais avec l'approbation des parents.
Des parents à la fin. D'accord, mais c'est déjà la participation, c'est déjà une bonne chose. On va accueillir M. Godet depuis Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les deux invités qui se trouvent dans
les trois invités. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la participation des enfants et des jeunes?
Je voulais peut-être savoir nos invités. Si l'enfant choisit l'option, par exemple, la mécanique générale, mais vous, en tant que parent, vous constatez l'enfant n'est pas brûlé, donc, en mécanique.
Il n'est pas brillant.
Vous voyez, l'enfant est en train de se donner, donc, par exemple, à l'agriculture. Mais vous voulez changer l'enfant d'aller à l'agronomie par rapport à mécanique, puisque et l'enfant n'est pas donc brûlé par rapport à la mécanique. L'enfant est en train de boycotter. Qu'est-ce que vous, comme parents, vous pouvez faire? Deuxième question. Est-ce que c'est les parents qui donnent la loi à la famille ou c'est les enfants pour que la nourriture d'aujourd'hui, on peut manger les feuilles du manioc ou la viande? Les enfants mangent par le goût du papa ou les papas mangent par le goût des enfants. Je voulais savoir aux invités.
Oui.
Nous, les parents, nous sommes dépaysés. Il peut nous préciser. Cette année, ici, nous sommes en train de voir beaucoup des enfants en train de faire des groupes là, ça a déjà des bases. Les groupes là, l'invité peut nous ramener encore. C'était commencé vers quelle année jusqu'aujourd'hui, jusqu'à notre année.
Il s'agit de quel genre de groupe?
Mais il n'existe pas.
Il s'agit de quel groupe?
Aujourd'hui, les enfants commencent à prendre le sang du chat avec le petit Tamba. Il prend, il forme des groupes de base américaine. Et d'autres bases.
Ah oui, vous voulez parler de gangs.
Pour se bagarrer.
Ah, ok.
Il peut commencer à vers quelle année comme ça? Nous n'avons pas de précision.
Merci, monsieur Godet. Pagamil, vous êtes à Bounia. Bonjour. Pagamil n'est plus en ligne. Bien. Voilà. L'enfant, papa veut que l'enfant aille faire la mécanique, mais l'enfant veut faire l'agriculture. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il opter le choix du papa ou de l'enfant? Roberto.
Encore là, c'est question de dialogue. Le papa peut appeler l'enfant et lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? En mécanique, tu te débrouilles pas bien. En agriculture, tu te débrouilles bien. Qu'est-ce que tu fais? L'enfant verra que papa est intéressé pour ce qu'il veut faire. Alors l'enfant pourra réfléchir, dire que non, papa, j'ai vu qu'en mécanique, je me débrouille pas bien. En agriculture, ça va. Je préfère laisser la mécanique et aller en agriculture. Et l'enfant verra que non, papa considère mon opinion. Alors, quand je pars en agriculture, je dois chercher à lui faire honneur, à faire non, les choix que j'ai choisis, mon père soit fier de moi et je ferai ça avec cœur. Alors que si on m'impose une chose, je ne veux pas le faire, je ne ferai pas ça bien. Parce que je sais que non, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai choisi ça, c'est mes parents, je ne voulais pas ça et tout.
Cornélie.
Suivant l'histoire du monsieur, il a dit que son fils voulait faire de la mécanique. Il a accepté, il a commencé à faire de la mécanique et il a vu que son fils ne s'en sortait pas très bien. Tandis qu'en agriculture, il s'est débrouillé bien. Et il a demandé si le parent peut maintenant s'imposer pour que son fils puisse faire de l'agriculture. Moi, je dirais que déjà, en arrivant en ces termes de la situation, c'est déjà une conséquence. Parce que l'enfant a demandé aux parents et il a dit qu'il voulait faire de la mécanique, il a fait la mécanique. Il s'en sort pas bien. Alors le parent, lui, le monsieur, en tant que parent, il peut appeler son fils, lui montrer les situations ou lui montrer le mal de ce qu'il a fait ou le mal de l'option qu'il a choisi. Oui. Et puis il peut commencer à lui dire que tu vois, tu as fait de la mécanique, mais tu vois, tu t'en sors pas. À la mécanique que tu fais, ça ne va pas. Alors je préférerais mieux que tu fasses l'agriculture. Quand il parle avec l'enfant et qu'il n'impose pas l'enfant et qu'il parle à l'enfant calmement, comme s'il parlait à son ami, l'enfant va directement comprendre et cette leçon va être ancrée en lui. Et il va comprendre que le choix que papa a fait, c'était pour mon bien parce que en mécanique, je m'en sors pas du tout.
Il a dit aussi pour le choix de la nourriture, est-ce que le papa doit manger selon le goût des enfants ou ce sont les enfants qui mangent selon les goûts des parents?
Bon, moi, je pense que les enfants aussi ont droit à la participation. Donc aussi, c'est un droit pour eux de vouloir manger ce qu'ils veulent. Donc, je pense bien que c'est bien qu'un enfant donne une opinion concernant ce qu'il va manger. Parce qu'un enfant, si tu l'imposes de la nourriture, il peut refuser de manger. Et s'il refuse de manger, cela détruira sa santé. Et ça, c'est un manque de la part des parents. Parce qu'il doit protéger leurs enfants, même au niveau sanitaire. Alors, je pense que l'enfant doit donner aussi son opinion concernant ce qu'il va manger.
Même pour le choix des écoles?
Pour le choix.
On peut demander ton avis, tu veux étudier où? Tu peux dire non, je suis allé à tel lycée ou à telle école.
Oui, moi je pense que oui.
Ou à l'université, je voudrais aller faire étudier à l'UNIKIN ou dans telle autre université.
Oui, on peut demander la participation de l'enfant, l'opinion de l'enfant, mais les parents, de son côté, ils peuvent demander à son enfant pourquoi est-ce que tu as choisi cette école? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette faculté? Cette école a quelle influence? Quelle est la raison vraiment qui t'a poussé à choisir cette université? S'il voit que les raisons de l'enfant sont valables, il peut accorder sa permission. Mais s'il voit que pour l'enfant, ça sera un danger, il peut refuser. Le droit à la participation ne veut pas dire que les parents doivent accepter tout ce que l'enfant dit. Non, c'est pas ça. L'enfant a juste le droit de donner son opinion, ce qu'il pense. Parce qu'un enfant qui ne donne pas ce qu'il pense reste avec cette pensée. Quand il reste avec cette pensée, donc il ne se sentira pas épanoui. Sa vie sera, vous voyez, même dans les comportements de l'enfant, l'enfant sera triste. Parce que souvent à la maison, il n'est pas épanoui. Parfois, ça se remarque même, tu vas voir une maman, il rencontre l'ami de son enfant ou soit les collègues de sa fille qui dit que non, votre fille en classe elle parle trop, mais la mère dit oh non, moi mon fils ou ma fille ne parle pas beaucoup, elle est calme. Pourquoi? Parce que vous serrez trop l'enfant ne participe pas à ce qui le concerne. Alors je dirais que l'enfant doit donner son opinion, mais les parents, lui, n'est pas obligé. S'il trouve que c'est favorable pour l'enfant et que c'est passable, il n'a qu'à laisser libre cours.
D'accord, il n'a qu'à laisser libre cours. Eh bien, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission, Madame Déborah.
Oh là là, Monsieur Godet nous a parlé du choix de la filière. En tout cas, une fois de plus, les enfants ont vraiment tout dit. Dans la participation de l'enfant, ce n'est pas d'accepter tout ce que l'enfant dit ou tout ce que l'enfant demande. Dans le choix de l'option, comme Monsieur Godet vient de le dire, l'enfant veut faire la mécanique et que son père trouve que la mécanique n'est pas favorable à ce dernier. Vous savez, chers parents, il y a certains enfants qui prennent des décisions suite à des influences. Peut-être il a
un copain qui fait la mécanique ou qui veut faire la mécanique. Et du coup, il dit à son ami, tu sais, la mécanique, elle est cool, hein. Viens, tu vas faire la mécanique avec moi. Tu verras, on va bien s'en sortir et tout et tout. Et du coup, l'autre, il s'est dit, ah oui, mon ami, il va faire la mécanique. Du coup, moi, si je vais dire à papa.
Mon ami m'a dit ça, voilà.
Moi, si je vais faire la mécanique. Mmh. Et du coup, il vient chez son père, non, papa, je vais faire la mécanique. Et là, son père dit juste, non, tu vas pas faire. Ou oui, tu vas faire la mécanique. Dans ce genre de situation, le mieux à faire, c'est encore le dialogue. Le dialogue intervient encore. En parlant avec l'enfant, vous allez lui poser la question, pourquoi tu veux faire la mécanique aussi longtemps que je te vois être
avoir souple, des aptitudes, voilà, dans, des aptitudes dans tel domaine.
Dans telle autre chose. Oh non, papa, tu sais, je vais faire ça parce que il y a mon ami qui va faire aussi ça et je trouve ça cool. Tu trouves ça cool? Pourquoi? Oh non, parce que c'est cool. Déjà, il va manquer quoi dire parce que c'est juste par influence qu'il a voulu faire ça. Et c'est dans ce genre de questions, c'est dans ce genre de dialogue que l'enfant va commencer à
rentrer. Merci beaucoup, c'est tellement intéressant, mais on n'a plus beaucoup de temps. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci Roberto Loyan et puis Cornélie Cabéan, enfant reporter. Nous disons ici aussi merci à Déborah Botto qui est encadreur, qui vous a accompagné pour venir dans cette émission à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, excellente journée et à la prochaine.